Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent au joueur argentin Diego Armando Maradona, une icône du football mondial. Sa vie est un roman. Il porte une histoire plus grande que lui. Malgré son immense talent, il a dû chercher la rédemption en petites et grandes bêtises. Personnage à deux faces. L'écrivain dramaturge argentin Gabriel Calderón dira « On aime Maradona pour ce qu'il nous a donné. » Mais de sa vie, on a surtout construit un mythe. Considéré dès son plus jeune âge comme un prodige, et il était devenu international à l'âge de 16 ans, il avait connu une ascension remarquable avec Boca Juniors, à Barcelone en Espagne et en Serie A italienne à Naples. Positionné derrière les attaquants, Maradona est une sorte d'électron libre qui jouait partout sur le terrain. Solide, trapu, très rapide, il était doté d'une qualité technique, d'un sens du jeu et d'une audace qui lui permettait de faire basculer le match à lui seul. Maradona, non sélectionné en 1978 pour le Mondial en Argentine par l'entraîneur César Menotti en raison de son jeune âge, restait pourtant sur une expérience malheureuse en Coupe du Monde 1982 en Espagne. La pression de tout un peuple qu'il avait érigé en pelé argentin l'avait inhibé et stressé au point qu'il n'avait disjoncté lors du match contre le Brésil, agressant le défenseur Bautista avant d'être expulsé. Depuis cet épisode frustrant, il avait gagné en maturité et en sang-froid. S'il restait des doutes sur sa capacité à exprimer son talent, en particulier au niveau international, et à maîtriser sa fougue, Maradona les a levés contre l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde 1986. Retour sur la Coupe du Monde 1986 au Mexique, sur ce quart de finale Angleterre-Argentine. À la 51e minute de la partie, Maradona a passé en revue une partie de la défense britannique et a tenté un 1-2 avec son avant-centre Jorge Valdano à l'entrée de la surface de réparation. Le ballon est contré par un joueur britannique, mais Maradona a été plus prompte, le catapultant au fond des filets du gardien anglais Peter Shilton avec la main. La faute est apparue évidente pour tout le monde, à l'exception de l'arbitre tunisien qui a validé le but. Maradona l'a défini comme la main de Dieu. Beaucoup de ses détracteurs ne lui pardonneront jamais d'avoir triché pour l'emporter. Mais 3 minutes après ce but, il s'est emparé du ballon au milieu du terrain et l'a traversé sans qu'aucun joueur britannique n'ait pu l'arrêter. Ce but est toujours considéré comme le but du siècle. Ce match va donc faire l'histoire. Pour les observateurs, l'Argentine prenait une revanche symbolique après la déroute de l'armée argentine dans la guerre des Malouines en 1982 face à l'armée anglaise, entraînant la fin de la dictature de Videla. En demi-finale, l'Argentine domine la Belgique 2-0. En finale, elle l'emporte face à l'Allemagne 3-2 et devient pour la seconde fois champion du monde. Diego Maradona est né le 30 octobre 1960 à Lanús, dans la province de Buenos Aires. Il est le 5e des 8 enfants. Il grandit dans le bidonville surpeuplé et insalubre de Villa Fiorito, dans la banlieue sud de Buenos Aires, où son père travaille sur des chantiers de construction, tandis que sa mère fait des ménages. Élève médiocre, il apprend la débrouille, mais aussi l'adversité dans ce bidonville, où il joue de nombreux matchs de football dans les rues. On le surnomme El Pibe de Oro, le gamin en or. Son talent est tel qu'il honore sa première sélection en équipe nationale le 27 février 1977, à 16 ans, pour un match contre la Hongrie. En club, il joue à Boca Juniors, le club pauvre de Buenos Aires, dans son stade de la Bombonera. En 1981, il gagne le championnat argentin, mais surtout humilie le rival légendaire de Boca, River Plate, en marquant deux des trois buts de la victoire. En 1982, Maradona est transféré au Football Club de Barcelone pour environ 7,3 millions de dollars par une équipe de Boca Junior qui s'est beaucoup endettée. À Barcelone, le petit génie argentin est en butte à des problèmes qu'il n'a jamais connus avant. Tout d'abord, il se heurte au scepticisme d'une grande partie du public qui n'apprécie pas ses frasques en dehors des terrains de jeu. Une hépatite l'éloigne des terrains en décembre 1982. Enfin, il doit faire face à des défenseurs très rugueux dans le championnat espagnol qui n'hésitent pas à l'agresser sous les yeux des arbitres. L'un d'entre eux, le défenseur de l'Atlético Bilbao, Andoni Goikoetxea, brise la cheville de Maradona, ce qui l'écarte pendant quelques mois des terrains. En froid avec Udo Lattek, l'entraîneur du Barça, Diego n'arrange pas son image en ayant une vie nocturne très agitée où il écume les boîtes de nuit. Lui-même a avoué que c'est aussi à Barcelone qu'il a commencé à prendre de la cocaïne. Le 5 juillet 1984, Maradona rejoint le Napoli, modeste club de Serie A italienne, pour plus de 9 millions de dollars, un record mondial à l'époque. Il s'est dit que c'est la mafia, la Camorra, qui a payé le transfert. Mais il est accueilli par 70 000 supporters napolitains, assistant à sa présentation au stade de San Paolo. Il incarne maintenant l'Italie du Sud, pauvre, face à l'Italie du Nord, arrogante et riche. C'est la revanche des humiliés. Naples réalise une saison 1986-1987 historique. Champion d'Italie pour la première fois de l'histoire du club, 3 points devant la Juventus de Turin de Michel Platini tenant du titre, les Napolitains remportent également la Coupe d'Italie, réalisant ainsi un rare doublé. Avec ces titres, Diego Maradona devient une icône quasi religieuse. Malheureusement pour le club, au niveau européen, Naples est éliminé en 32e de finale de la Coupe de l'UEFA face au Toulouse Football Club. Maradona ratant son tir pendant la séance de tir au but, en tirant sur le poteau lors du match retour au Stadium de Toulouse. Même si les médias glosent sur sa forme physique et sa propension à faire la fête, le joueur multiplie les exploits sur le terrain et fait taire ses détracteurs. Mais hors du terrain, les scandales commencent à trouver écho au sein des médias. On lui trouve un fils illégitime, on parle de ses liens avec la mafia napolitaine, la Camorra. À l'été 1989, l'Olympique de Marseille, en pleine ascension sous la férule de Bernard Tapie, cherche à le recruter, mais les dirigeants napolitains s'opposent à son départ. En demi-finale de la Coupe du Monde 1990, le 3 juillet 1990, Maradona qualifie l'Argentine au tour 8 face à l'Italie, dans le stade de Naples, Sao Paulo, et où il jouait durant la saison régulière. Beaucoup de Napolitains se rallient à sa cause et fêtent la victoire de l'Argentine et de leur star. Pourtant, le héros italien de cette demi-finale est un gars de Palerme, Toto Schilacci, le buteur d'un seul été, l'homme qui réconcilie le sud avec le nord de l'Italie quand Maradona en soulignait la division. Lors de la finale au Stadio Olimpico de Rome, le public italien siffle l'hymne argentin. Maradona est considéré comme un traître. Maradona marmonne des Hijos de puta. L'Italie a voulu instrumentaliser Naples, la ville qu'il avait fait roi, et ainsi la ville était redevenue la ville du choléra, des pots de vin, de la camorra et des diables. Comme le dit Vincent Duluc dans son dictionnaire amoureux des Coupes du Monde, Maradona retrouvait la peau mal tannée d'un joueur bientôt perdu, aux amitiés sulfureuses, qui ne s'endormait jamais avec la même femme et jamais avant l'aube, et qui vivait le nez dans la poudre. En finale, l'Allemagne l'emporte 1-0 suite à un pénalty discutable. Maradona a compris qu'on lui a volé la Coupe du Monde. C'est aussi le commencement de la fin. En mars 1991, c'est un contrôle positif à la cocaïne. Il quitte Naples en 1992 pour jouer au Football Club de Séville, qu'il achète 8 millions de dollars. Après la saison sévillane, au cours de laquelle il dispute 26 matchs de championnat, il retourne finir sa carrière en Argentine, au Newell's Old Boys, puis à Boca Juniors, de 1995 à 1997. Ces années sont dures pour Maradona, qui voit toujours sa réputation le précéder. Ayant pris trop de poids, rongé par la cocaïne, il ne retrouvera plus jamais le niveau qui fut le sien avant sa suspension. Revenu pourtant en grâce pour la Coupe du Monde 1994 organisée aux États-Unis, il est de nouveau sélectionné après sa suspension pour usage de stupéfiants. Mais il est contrôlé positif à l'éphédrine cette fois. Il ne joue que 2 matchs lors de ce tournoi. Il y inscrit son dernier but en équipe nationale, une frappe en pleine lucarne contre la Grèce. C'est aussi la dernière apparition de Maradona sous le maillot argentin. Reconverti entraîneur, il est nommé sélectionneur de l'équipe nationale argentine le 28 octobre 2008, à l'issue de la Coupe du monde de football de 2010, au cours de laquelle l'Argentine s'incline lourdement face à l'Allemagne en quart de finale, 4-0. Son contrat de sélectionneur n'est pas renouvelé. En 2011, 10 mois après avoir quitté la tête de la sélection argentine, Diego Maradona signe pour 2 saisons un contrat d'entraîneur au club d'Al Wahj Dubaï. Mais faute de résultats, son club le limoge en 2012. Le 16 mai 2018, il s'engage en tant que président du club biélorusse du Dynamo Brest pour une durée de 3 ans. Le 7 septembre 2018, il est nommé entraîneur des Dorados de Sinaloa en division 2 mexicaine, tout en restant à la tête du Dynamo Brest. Le 5 septembre 2019, Maradona est nommé entraîneur du club de Gimnasia et Esgrima La Plata en division 1 argentine. Il démissionne de son poste en novembre de la même année. Diego Maradona aura défendu plusieurs dirigeants politiques de gauche. Il se décrit ainsi comme un soldat péroniste et apporte publiquement son soutien au président argentin Néstor Kirchner, 2003-2007, et Cristina Kirchner, de 2007 à 2015. Au contraire, il dénonce la politique du président conservateur Mauricio Macri, de 2015 à 2019, qu'il estime responsable des licenciements de dizaines de milliers d'employés du secteur public et d'une augmentation rapide de la pauvreté. Après avoir appris la mort de Fidel Castro, dont il est politiquement proche, il se déclare terriblement triste, parce qu'il était, pour lui, comme un second père. Il avait rencontré une première fois le président cubain en 1987 et retourné depuis lors régulièrement sur l'île de Cuba, nouant une relation de confiance avec Fidel Castro. Il soutient le président vénézuélien Hugo Chavez et apparaît à ses côtés à plusieurs reprises, notamment lors du Sommet des Peuples, un rassemblement altermondialiste organisé à Mar del Plata en Argentine en novembre 2005 et exprime publiquement sa vive opposition au président américain George Bush. Lors de l'élection présidentielle brésilienne de 2018, il dénonce le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro, faisant allusion à l'incarcération de l'ex-président socialiste Luiz Inácio Lula da Silva à l'issue d'un procès controversé et banni du scrutin présidentiel dont il était donné grand favori, il dit « Ils ont volé la présidence à Lula ». Le 25 novembre 2020, Diego Maradona meurt d'un arrêt cardiaque à son domicile de Tigre et dans la banlieue de Buenos Aires, à l'âge de 60 ans. 3 jours de deuil national sont décrétés par le gouvernement argentin immédiatement après l'annonce de sa mort. C'est le début d'un mythe. Celui d'un héros comme l'Argentine sait en produire. Celle d'Eva Perón, 1919-1952, femme du président Juan Perón, décédée à 33 ans et dont sa dépouille fut veillée dans l'édifice du Congrès. On n'oubliera pas Carlos Gardel, né le 11 décembre 1890 à Toulouse et mort le 24 juin 1935 près de Medellín, en Colombie, considéré comme la figure la plus importante du tango de la première moitié du XXe siècle. Le tango, l'autre passion de l'Argentine. Il y a aussi Ernesto Guevara, plus connu comme Che Guevara ou le Che, né le 14 juin 1928 à Rosario et mort exécuté le 9 octobre 1967 à La Higuera, révolutionnaire marxiste-léniniste et internationaliste argentin. Maradona est le plus complet, le plus inventif, le plus génial des grands footballeurs. Maradona incarne le football romantique. C'est un personnage de la passion, au sens de la passion religieuse. Il y a chez lui, à travers son destin, quelque chose d'une figure christique. À tout le moins, il est une figure contemporaine du héros, du sauveur populaire. Surtout dans cette Naples qui ne l'a pas oublié, cette ville du Sud méprisée par l'Italie riche du Nord, qui ignorait ou préférait oublier qu'au XIXe siècle, Naples était la troisième grande capitale culturelle européenne avec Paris et Londres.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.